Nous allons étudier tout d'abord l'étymologie du mot art. Le mot art vient du latin ars, A-R-S, qui signifie technique ou savoir-faire. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la distinction ne se faisait pas clairement entre l'activité créatrice de l'artiste et l'activité technique de l'artisan, les deux mots ayant d'ailleurs la même racine étymologique. Ce n'est qu'au moment de la Renaissance en Europe qu'apparaît la conception moderne de l'art, le mot français « artiste » étant d'ailleurs formé sur le mot italien « artista » que l'on trouve, semble-t-il, pour la première fois sous la plume du poète florentin Dante dans la Divine Comédie publiée au début du XIVe siècle. En français contemporain, le mot « art » peut donc désigner deux types d'activités bien distincts. Tout d'abord, toute activité humaine faisant appel à un savoir-faire ou à une technique. Une technique étant l'ensemble de règles déterminées et acquises par l'homme de manière réfléchie, lui permettant de faire ou de produire quelque chose. On retrouve ce sens dans les expressions « arts martiaux » ou « arts culinaires ». Puis, deuxième sens, l'art peut désigner une activité humaine ayant pour but de produire un certain type d'objet destiné à la contemplation esthétique. En ce second sens plus précis, on parle de beaux-arts, une expression qui est née en France au XVIIe siècle et qui désigne six catégories d'activités qui se répartissent plus ou moins en deux groupes. D'une part, les arts rythmiques, la musique, la danse, la poésie. D'autre part, les arts dits plastiques, la peinture, la sculpture et l'architecture. À ces catégories classiques se sont ajoutées plus récemment au 19e ou au début du 20e siècle, le cinéma, le 7e art, et la photographie, le 8e. La réflexion philosophique sur l'art porte principalement sur la question de la spécificité de cette activité et de ses produits. L'art a-t-il un sens et une valeur qui le distingue des autres domaines de l'activité humaine? Ou bien n'est-il qu'une activité parmi d'autres qui l'apparente au travail et à la technique? De là, plusieurs questions particulières peuvent se poser concernant la distinction entre les modes de production artistique et technique, ou bien concernant la valeur de l'objet d'art et notamment sa dimension esthétique, ou bien encore concernant la place à donner aux artistes dans la société. Première question. Qu'est-ce qui distingue un objet d'art d'un objet technique? Cette question suppose implicitement que l'on peut distinguer les deux types d'objets et il nous invite à rechercher les critères d'une telle distinction. Le premier critère de distinction paraît être celui du mode de production. Tandis que l'artisan et l'ouvrier produisent des objets techniques en suivant des règles de fabrication strictement déterminées et apprises, l'artiste semble jouir quant à lui d'une certaine liberté créatrice qui ne le soumet pas à des règles techniques de production aussi strictes. On pourrait aussi évoquer la finalité de la production. Dans un cas, il s'agit de produire un objet à vocation principalement utilitaire, dans l'autre, un objet à vocation principalement esthétique. Mais nous examinerons la question de la finalité de l'objet artistique plus en détail dans le sujet suivant. Revenons donc aux critères du mode de production. On peut toutefois discuter et même remettre en question une opposition aussi tranchée. Certes, d'un côté, plusieurs philosophes et artistes également tentent à souligner la grande liberté de l'artiste qui serait capable de créer un objet original sans suivre, en apparence du moins, de règles préétablies. Ce serait là la marque de son génie, une notion que le philosophe Emmanuel Kant a ainsi définie. Je cite, « Le génie est le don naturel qui donne des règles à l'art. » Critique de la faculté de juger, paragraphe 46, ouvrage qui a été publié en 1790. Toutefois, d'autres penseurs ne sont pas du même avis et estiment au contraire que toute production humaine, quelle qu'elle soit, requiert l'acquisition d'un savoir-faire, de sorte que l'objet d'art ne se distinguerait pas fondamentalement de l'objet technique. Le philosophe français Gaston Berger écrit ainsi en 1958, je cite, « Pour l'homme, il n'y a point de création sans technique. Une sonate, un tableau ou un poème ne font pas exception à cette règle. » En réalité, la difficulté à distinguer les œuvres d'art des objets techniques paraît de plus en plus grande à l'époque contemporaine, alors que nos sociétés accordent une place de plus en plus importante au progrès techno-scientifique. Ainsi, par exemple, la Tour Eiffel, conçue et réalisée par l'ingénieur français Gustave Eiffel en 1889, était-elle à l'origine un objet de facture technique, dont plusieurs écrivains et intellectuels français avaient d'ailleurs réclamé le démontage en raison de sa laideur? Or, cet objet n'est-il pas unanimement célébré et visité aujourd'hui en raison de sa beauté, de sorte qu'il a acquis le statut d'une véritable œuvre d'art, et ce, en vertu d'un changement du regard de la société? On pourrait encore citer l'exemple célèbre de l'urinoir de Marcel Duchamp, une œuvre que l'artiste a proposée dans une exposition à New York en 1917 sous le titre « Fontaine ». Or, comme on sait, il ne l'a nullement créé lui-même, puisqu'il s'agit d'un objet tout prêt, acheté dans une quincaillerie et produit par l'industrie, un « ready-made », pour reprendre la formule de l'artiste. Ces exemples montrent donc que la véritable distinction entre objet technique et objet d'art ne réside pas tant dans les caractéristiques de l'objet lui-même, dans ses caractéristiques objectives, que dans le regard subjectif du spectateur. L'œuvre d'art a-t-elle pour vocation d'être belle ? Ce deuxième sujet porte sur la question de la finalité de l'œuvre d'art et aussi par conséquent sur celle de sa valeur. L'art vaut-il en raison d'une quelconque utilité, parce qu'il permettrait de satisfaire un besoin humain, ou bien seulement en vertu du plaisir esthétique qu'il est susceptible de nous procurer ? Autrement dit, l'œuvre d'art aurait-elle une valeur par elle-même ? Ce serait l'hypothèse de l'autonomie de l'art. Ou bien n'aurait-elle de valeur que relativement à des fins extérieures à l'art lui-même ? Ce serait l'hypothèse de l'hétéronomie de l'art. Schématiquement, on pourrait dire que pour les penseurs de l'Antiquité gréco-romaine, comme Platon ou Aristote notamment, ainsi encore que pour les penseurs européens des débuts de l'époque moderne, qui s'inspiraient de l'Antiquité, l'art a avant tout de la valeur en tant que moyen de nous enseigner quelque chose, de nous instruire, voire de nous édifier moralement et politiquement. Cela parce que ces penseurs tenaient la vérité et le bien pour les valeurs les plus élevées. Les penseurs et écrivains français classiques du XVIIe siècle s'inspiraient en cela du précepte du poète latin Horace, 1er siècle avant Jésus-Christ, pour qui l'art devait à la fois, je cite, « plaire et instruire ». Placere et instruire. Je cite un autre poète français du XVIIe siècle. « Rien n'est beau que le vrai seul est aimable », écrivait ainsi le poète classique Boileau dans son Art poétique en 1674. Toutefois, cette conception qui subordonne la beauté artistique en tant que simple moyen à une fin plus élevée, à savoir l'instruction ou la vérité, a été combattue au XVIIIe siècle par des écrivains et des penseurs qui considéraient, au contraire, que l'art avait avant tout pour but de nous procurer un plaisir esthétique et subjectif. Aussi, l'abbé Jean-Baptiste Dubos, par exemple, dans ses réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, parues en 1719, écrit, je cite, « En lisant un poème, nous regardons les instructions que nous pouvons y prendre comme l'accessoire. L'important, c'est le style, parce que c'est du style d'un poème que dépend le plaisir de son lecteur. » Ces réflexions esthétiques marquent un tournant au début du siècle des Lumières. L'art a principalement de la valeur en raison du plaisir qu'il procure au spectateur ou à l'auditeur, et non pas en raison de l'enseignement objectif qu'il peut contenir. Il resterait certes encore à se demander en quoi consiste ce plaisir. Correspond-il à la satisfaction d'un besoin naturel de l'homme, auquel cas il risquerait de se confondre avec l'agrément ou l'utilité ? Ou bien est-ce qu'il nous renvoie à une faculté supérieure et autonome de l'esprit, faculté que Kant nommera plus tard dans sa critique de la faculté de juger, de 1790, le goût ? Troisième question. Faut-il chasser les artistes hors de la cité ? Cette question fait implicitement, mais assez clairement, référence au texte de Platon intitulé « La République », dans lequel le philosophe grec recommande que l'on chasse les artistes, les poètes, les peintres et autres imitateurs en dehors de la cité bien organisée qu'il appelle de ses vœux, en raison du fait que ces artistes flattent les sens et les sentiments les moins nobles de l'homme et détournent celui-ci de la voie de la raison. Je cite Platon, « Les hymnes aux dieux et les éloges des gens vertueux, précise le philosophe grec, seront la seule poésie que nous admettrons dans notre cité. » Autrement dit, l'art n'aurait de valeur que s'il pouvait nous instruire et nous édifier. C'est la question que nous avons abordée dans le sujet précédent. Or, comme les artistes produisent des œuvres qui visent à charmer nos sens et qui nous détournent des vraies valeurs, si on peut dire, telles que le vrai, le bien et le juste, ils ne peuvent trouver leur place dans une société organisée selon des principes purement et strictement rationnels. Une telle question n'a en rien perdu de son actualité dans le monde moderne et contemporain, où les rapports entre l'art et la société ou bien la politique, demeure toujours conflictuelle. Les artistes sont des gens qui ont toujours suscité la méfiance de la part du corps social, dans la mesure où leur activité semble ne pas pouvoir trouver sa place parmi les activités humaines traditionnelles, celles qui sont considérées comme sérieuses, c'est-à-dire à la fois rationnelles et utiles. La production économique, l'action politique ou bien encore la connaissance. Les artistes seraient donc par définition des contestataires, voire des anarchistes. C'est ce que confirme, par exemple, le mouvement Dada ou dadaïste, qui est né au cœur de l'Europe pendant la Première Guerre mondiale et qui se donnait pour objectif de renverser toutes les valeurs de la société. Mais, à l'inverse, lorsque les artistes ne sont pas tenus en marge de la société, ils sont au contraire enrôlés pour servir les valeurs et les fins du monde social et politique. L'art devient alors engagé, au sens de Jean-Paul Sartre, qui parlait de l'artiste engagé dans « Qu'est-ce que la littérature ?», publié en 1948. Mais alors, l'artiste ne risque-t-il pas de se compromettre avec des régimes politiques peu recommandables, comme on a pu le constater au cours du XXe siècle, notamment avec le fascisme ou bien le nazisme? On pourrait citer ici l'exemple du sculpteur officiel du régime nazi, Arnaud Brecker. Ainsi, on pourrait dire que Platon nous avait bien mis en garde, il faut toujours se méfier d'une société qui honore les arts et les artistes. Concluons. L'art est une activité à part dans le champ des activités sociales et humaines. Si elle obéit à certaines contraintes techniques, comme le suggère son étymologie, elle s'en libère cependant en partie pour laisser une place au génie, à la créativité et à l'inventivité de l'artiste. Celui-ci apparaît alors comme un être doué de facultés exceptionnelles qui le place au-dessus du commun des mortels et lui permettent d'exprimer sa vision du monde. Le style pour l'écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, écrivait le romancier Marcel Proust, dans Le Temps retrouvé, est une question non de technique, mais de vision. Néanmoins, il convient de ne pas tomber dans la mystification de l'art et de se méfier des artistes, car ceux-ci restent, comme le disait Platon, des imitateurs ou des faiseurs de simulacres, c'est-à-dire des gens qui ont le pouvoir de nous charmer dans la mesure exacte où ils ont aussi celui de nous tromper.